C'est l'information de la soirée. Shérif Shekat est mort. L'auteur de l'attentat de mardi soir à Strasbourg a été tué dans la capitale alsacienne ce soir après une fusillade avec les forces de l'ordre. C'est donc la fin de deux jours de chasse à l'homme, nous dira Mathilde Lemaire. Et puis nous entendrons le soulagement du maire de la ville, Roland Ries. L'Assemblée nationale a rejeté sans surprise la motion de censure contre le gouvernement dans la crise des gilets jaunes. Mais le socialiste Olivier Faure s'est attiré, vous l'entendrez, les foudres de la majorité. Et puis nous reviendrons aussi sur cette ébauche de paix au Yémen. Les combats devraient notamment cesser à Hodeïda. Précision d'Omar Ouaman à suivre. La traque est donc terminée à Strasbourg. Elle aura duré deux jours. Shérif Shekat a été tué par les forces de l'ordre ce soir. Peu après 21h, le terroriste de 29 ans qui a abattu trois personnes mardi soir sur le marché de Noël se trouvait dans le quartier du Neudorf au sud de la ville, à quelques encablures de la zone où les policiers avaient perdu sa trace mardi soir. Les précisions de Mathilde Lemaire.
Oui, ça s'est passé vers 21h. Shérif Shekat sort d'un immeuble de la rue du Lazaret, a priori au 74 de la rue du Lazaret. On est dans le quartier du Neudorf, secteur où un important dispositif de sécurité avait été déployé. Il sort donc de cet immeuble et est très vite reconnu par des policiers de la BST, c'est-à-dire de la brigade spécialisée de terrain, anciennement unité territoriale de quartier. C'est des gens de terrain, des policiers de proximité, des policiers de patrouille qui donc le reconnaissent. Ils voient lui-même, Shérif Shekat, qu'il est reconnu et il ouvre le feu contre les policiers, mais il a manqué ses cibles, comme il avait d'ailleurs manqué ses cibles quand il avait voulu s'en prendre aux militaires de Sentinelle ou même aux deux motards qui avaient tenté de le poursuivre mardi soir vers 21h dans le quartier du Neudorf. Donc il ouvre le feu, Shérif Shekat, avec une arme de poing, vraisemblablement l'arme de poing avec laquelle il a commis son attaque de mardi soir. Et puis donc là, rapidement, les policiers ripostent. C'est donc un tir de riposte qui a permis de l'abattre. C'est pour ça que Shérif Shekat est décédé.
Mathilde Lemaire pour France Culture. Dans cette enquête, 5 personnes sont toujours en garde à vue, dont 4 membres de la famille de Shérif Shekat, ses parents et 2 de ses frères. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, devrait s'exprimer dans quelques minutes. Il a annoncé tout à l'heure que le marché de Noël allait rouvrir demain. Il avait une réunion à la préfecture ce soir. La mort de Shérif Shekat, en tout cas, est un grand soulagement pour le maire de Strasbourg, Roland Ries.
C'est une très bonne nouvelle qui nous permettra plus facilement de retrouver notre mode de vie, notre façon de vivre, nos valeurs. Nous avions déjà décidé de relancer le marché de Noël demain et cela nous conforte évidemment dans cette décision et dans l'orientation générale qui consiste maintenant à revenir à une vie normale après la terreur qui s'est emparée de la ville et la sidération.
Roland Ries, est-ce que vous avez des détails sur la façon dont s'est déroulée cette opération ce soir ?
Je n'ai pas de détails, j'ai appris en temps réel, en quelque sorte, que ce terroriste a été abattu. J'étais avec le ministre ici à la préfecture, le ministre est allé sur place, et donc... Je ne peux pas en dire plus, mais je suis très heureux que l'issue soit celle-là et bien maintenant, parce que plus ça a duré et plus c'était, une menace qui quand même pesait comme une épée de Damoclès sur les gens et qui perturbait au fond des concitoyens parce que je ne savais pas très très bien comment les choses allaient se passer.
Roland Ries, le maire de Strasbourg, au micro de nos confrères de France Info. La ville, elle, est toujours en état de choc. L'attaque, on le répète, a fait 3 morts et 13 blessés, dont 4 graves et une personne en état de mort cérébrale. L'heure était au recueillement cet après-midi à Strasbourg avec une cérémonie œcuménique dans la cathédrale. France Culture, 22h04, cette menace sécuritaire s'est invitée brutalement dans la crise des gilets jaunes. L'exécutif avance donc sur 2 fronts depuis mardi. Aujourd'hui, Édouard Philippe a dû, une fois de plus, défendre la politique du gouvernement à l'Assemblée nationale, où communistes, insoumis et socialistes avaient déposé une motion de censure. Alors, sans surprise, cette motion n'a pas recueilli de majorité ce soir. Le gouvernement n'est pas tombé, mais l'intérêt pour la gauche, c'était d'exprimer son désaccord. Et Olivier Faure l'a exprimé, son désaccord, sauf que son discours n'est pas vraiment passé. Reportage de Steven Goyer.
La vie politique est aussi faite de symboles. Ce report de quelques jours en était un. Vous avez fait le choix cynique d'utiliser le drame pour mieux cacher la crise.
Quelques mots qui provoquent un tollé sur les bancs de La République En Marche. Pour preuve, salle des quatre colonnes. Plutôt que d'évoquer la motion de censure, c'est davantage le discours du patron du PS qui fait parler, Amélie de Montchalin, députée de l'Essonne.
C'est purement scandaleux. Jean-Luc Mélenchon a fait un discours très digne sur ce sujet. Il a la décence de considérer que les attentats terroristes qui frappent notre pays et qui font souffrir des familles ne peuvent pas être récupérés politiquement comme l'a fait Olivier Faure.
Même cas de figure pour le député LREM, Florian Bachelier.
Ça combinait à la fois l'outrance et puis des contre-vérités. Je comprends qu'il était mal à l'aise et je pense que l'ensemble de son groupe était mal à l'aise sur le moment. Le fait de voter avec le Front National ou le Rassemblement National n'a pas dû le faire gagner en sérénité, mais je reste un peu triste ce soir.
Le principal intéressé, lui, assume. Pour lui, il fallait bien reporter ce débat sur la motion de censure.
Je maintiens ce que j'ai dit à la tribune, absolument. Si vraiment je devais prendre des conseils, ce ne serait pas auprès de Florian Bachelier que je les prendrais. Tous ces gens qui ont trahi leur famille d'origine, qui sont comme des girouettes à aujourd'hui approuver ce qu'ils détestaient hier, ça fait longtemps que je ne les écoute plus.
La motion de son côté n'a recueilli le soutien que de 70 députés, bien loin des 289 nécessaires pour provoquer la démission du gouvernement.
À Steven Goyer pour France Culture et tout à l'heure devant les députés, Édouard Philippe a indiqué que la hausse de 100 euros au niveau du SMIC s'ajoutera bien aux baisses de charges salariales. Cette mesure et les autres annoncées lundi par Emmanuel Macron feront l'objet d'un projet de loi qui sera présenté la semaine prochaine, tout comme les nouvelles recettes à trouver pour compenser leurs coûts. Mais sur le terrain, les gilets jaunes ne désarment pas. Plusieurs de leurs représentants ont balayé d'une main l'appel du gouvernement à ne pas manifester samedi en raison du contexte sécuritaire. Il y aura donc bien un acte 5 de la mobilisation. Et dans ce contexte, demain, la CGT appelle à une journée d'action, de grève et de manifestation en France pour défendre le pouvoir d'achat. Les transports et les écoles seront notamment touchés. Invité de ce journal, Baptiste Talbot, secrétaire général de la CGT Service Public. Bonsoir.
Bonsoir.
Baptiste Talbot, est-ce que cette grande journée d'action nationale est une réponse pour vous aux Gilets jaunes, une façon peut-être de reprendre la main sur un mouvement qui a semblé vous échapper dans un premier temps ?
La CGT, comme l'ensemble des acteurs de ce pays, je le souligne, a été effectivement quelque peu surprise, parfois bousculée par ce mouvement. Donc il nous a fallu un petit peu de temps pour l'analyser puis prendre... toute la mesure de ce qu'il représente. Nous, ce qu'on note aujourd'hui, c'est que c'est un mouvement qui, de plus en plus, axe ses thématiques et son action sur les questions sociales, sur les questions de répartition des richesses, sur l'exigence de la justice fiscale, sur le fait qu'il y a de fortes inégalités de revenus dans notre pays et que c'est une situation qui est devenue insupportable et qu'effectivement, des millions d'habitants de notre pays ont le plus grand mal à boucler leur fin de mois. Donc la CGT, elle cherche pas à rattraper quoi que ce soit. La CGT, elle continue à mener son action syndicale dans les entreprises, dans les administrations. Et nous considérons que notre action, elle est en fait complémentaire et convergente de celle des Gilets jaunes, mais il s'agit absolument pas de récupérer un mouvement qui a sa propre autonomie et dans lequel d'ailleurs il y a un certain nombre de militants de la CGT qui sont impliqués. Donc on considère que Gilets jaunes et Gilets rouges doivent agir dans le même sens pour faire reculer ce gouvernement et les forces qui sont derrière, à savoir les forces de la finance.
Alors justement, quelles sont les revendications des Gilets rouges de la CGT pour cette journée de demain ?
Eh bien, elles sont assez complémentaires et rejoignent largement celles des Gilets jaunes. Nous, il nous semble qu'il y a aujourd'hui deux grandes questions qui sont au centre, à savoir la question de l'augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux. Donc ça passe notamment par l'augmentation du SMIC et aussi le dégel de la valeur du point d'indice dans la fonction publique. L'autre grande question, c'est une meilleure répartition des richesses. De ce point de vue, le rétablissement de l'ISF, qui n'est pas qu'un élément symbolique, est une des questions centrales. Il faut absolument qu'on arrive à ce que le gouvernement renonce à cette suppression de l'ISF, qui est une mesure absolument scandaleuse, qui symbolise vraiment le fait qu'aujourd'hui, on a un traitement absolument inégalitaire en termes de revenus dans notre pays.
Les annonces d'Emmanuel Macron ne vous ont donc pas convaincu, hein. Je pense notamment au SMIC, à la hausse du SMIC.
Alors, c'est donc pas une hausse du SMIC, hein, puisqu'il y a eu tout un jeu sémantique de la part du gouvernement. C'est une hausse de la prime d'activité. D'ailleurs, le gouvernement ne fait qu'anticiper ce qu'il avait prévu faire. Donc voilà, c'est pas du salaire net, c'est pas du salaire socialisé. Ça ne va pas alimenter pleinement les caisses de la sécurité sociale. Toute prime, elle peut être supprimée du jour au lendemain. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est une augmentation du salaire brut. Parce que aussi, ça va permettre d'alimenter en particulier la protection sociale, et que c'est en augmentant le salaire brut que la fiche de paye et en particulier la ligne du net, augmente et améliore concrètement le sort des salariés. Ça vaut aussi bien évidemment pour les minima sociaux et pour les pensions de retraite.
Quels secteurs alors seront touchés demain dans la fonction publique ?
Demain, donc l'ensemble des secteurs sont concernés, dans le public, dans le privé. S'agissant de mon secteur à moi, donc la fonction publique territoriale, on a fait un point un peu plus tard que cet après-midi. Il y aura des appels à la grève un petit peu partout en France. Il y a également des appels unitaires dans différents secteurs. Je pense en particulier à l'éducation nationale et au secondaire. Il y a d'ailleurs des appels unitaires dans un certain nombre de territoires. Donc c'est une journée qui sera une étape supplémentaire. D'ores et déjà, la CGT prévoit une nouvelle mobilisation le 18 décembre avec l'ensemble des forces qui seront disponibles pour cela. Et donc, encore une fois, donc on soit bien notre action comme étant parfaitement complémentaire et qu'on soit convergente avec celle des Gilets jaunes.
Parlons de l'emploi dans votre secteur, la fonction publique, où la CGT est le premier syndicat au niveau national. Deux rapports viennent d'être publiés. Celui de l'INSEE qui note une légère baisse du nombre de fonctionnaires en 2017, 4 800 de moins sur un an. Et ce document du site FIPECO, fondé par un ancien magistrat de la Cour des comptes, qui, lui, s'inquiète du non-respect du principe d'égalité devant le service public, car dit-il, les agents sont répartis de façon inégale en France. Mmh. Dans certains territoires, ils sont 16% de plus que dans d'autres. Un phénomène qui vous inquiète ?
Écoutez, oui, forcément. Alors d'abord, nous, on ne connaît pas de territoire qui serait surdoté en fonctionnaires. Donc le vrai sujet, c'est qu'il y a effectivement des territoires qui sont sous-dotés en présence publique. D'ailleurs, je m'empresse de souligner que contrairement à ce que l'on entend souvent, la France, elle se situe dans la moyenne haute en termes d'emploi public par rapport aux pays développés. Donc la France est loin d'être suradministrée, comme on nous le dit souvent. Par ailleurs, la population française ne cesse d'augmenter. Donc effectivement, il y a des inégalités qu'il faut corriger. Pour ça, il y a besoin d'une puissance publique forte. Il y a aussi besoin de regarder les inégalités de ressources, notamment entre collectivités territoriales, qui sans doute expliquent un certain nombre de disparités que vous soulignez. Mais voilà, il y a surtout besoin d'avoir une cohérence nationale. Et donc nous, on ne croit pas à cette forme d'éclatement du territoire, de métropolisation accrue. Certains peut-être sont même tentés d'ailleurs une forme de fédéralisation. Nous, on croit vraiment qu'il y a une importance du cadre national et qu'il y a besoin d'un cadre national fort pour assurer une égalité sur l'ensemble du territoire. Et ça suppose aussi bien évidemment qu'on arrête de couper dans les budgets publics.
Baptiste Talbot, secrétaire général de la CGT Service Public, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France Culture. Il y aura bien un plan social sur le site de Fort Blanquefort en Gironde. Le constructeur américain a rejeté l'offre de reprise du Belge Punch qui prévoyait de maintenir 400 des 850 emplois. C'est une trahison, s'est emporté tout à l'heure le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. À l'étranger, il est l'homme qui a réussi à arracher une trêve au Yémen. Antonio Guterres, le chef de l'ONU, était tout sourire cet après-midi en Suède, là où se déroulaient des consultations de paix. Il a annoncé une série d'accords entre belligérants. C'est la première avancée en 4 ans de guerre, Omar Waman.
En Suède, les belligérants ont fait un grand pas vers la paix. Mais il a fallu dans un premier temps installer un climat de confiance et de bonne volonté. Les deux camps ont par exemple accepté d'échanger leurs prisonniers. Près de 15 000 combattants devraient connaître la liberté dans les prochains jours. Mais le plus dur sera de mettre en œuvre les accords, arrachés après plus d'une semaine de négociations. Le premier, le plus épineux, concerne la ville assiégée d'Hodeïda. Son port, contrôlé par les rebelles houthis, est vital pour des millions de yéménites. L'accord prévoit un double retrait des forces gouvernementales, mais également des insurgés. C'est à l'ONU que reviendrait la tâche de la gestion de la ville portuaire. Autre avancée, elle concerne la ville martyre de Taiz. Dans le sud-ouest du Yémen, les deux camps se sont entendus sur l'ouverture de corridors humanitaires pour soulager la population. En revanche, les deux parties n'ont pas trouvé de terrain d'entente concernant la réouverture de l'aéroport de Sanaa, la capitale, également aux mains des Houthis. Contrairement aux annonces de la veille, maître du ciel, la coalition a décidé de maintenir son blocus aérien.
Omar Waman pour France Culture. Et on retourne tout de suite à Strasbourg, à l'entrée du quartier du Neudorf, là où a été tué Chérif Chekat. Tout à l'heure, on retrouve Benjamin Hillet, notre correspondant sur place. Benjamin.
Oui, un quartier évidemment bouclé à l'heure actuelle, des dizaines de véhicules de CRS déployés devant nous et d'ailleurs qui nous bouchent la vue, on ne voit plus grand chose. On est à très exactement 180 mètres du lieu de l'interpellation, 74 rue du Lazaret dans ce quartier de Neudorf. C'est là donc où il y a eu un échange de tirs entre les forces de l'ordre et Chérif Chekat, et Chérif Chekat qui a été abattu. Autour de moi, il y a essentiellement des journalistes et évidemment les habitants, les passants qui se massent devant le cordon de sécurité et qui me le confient tous unanimes. Nous sommes soulagés. Enfin, le terroriste a été abattu, on va pouvoir reprendre possession de nos rues sans avoir peur d'être abattu nous-mêmes, hein, puisque tout le monde a été traumatisé par ce qui s'est passé dans le centre historique de Strasbourg. Il y a une vraie émotion collective ici, dans cette ville. Encore tout à l'heure, il y a eu une cérémonie œcuménique à la cathédrale de Strasbourg, et on a bien vu ces Strasbourgeois qui voulaient se serrer les coudes, relever la tête face au terrorisme. Et là, ça y est, c'est le soulagement.
Merci beaucoup Benjamin Elie, en direct de Strasbourg pour France Culture. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau.